Merci d'être là pour cette table ronde qui a pour titre La science-fiction, une machine à réinventer les mythes. Alors, les rapports entre la science-fiction et la mythologie, on peut le dire, sont aussi anciens que le genre lui-même. Qu'on pense comme exemple canonique à Frankenstein. Le docteur Frankenstein est qualifié de Prométhée moderne et sa manière de voler le feu céleste est, à l'image de celle du mythe original, un sacrilège dont il devra payer le prix. Cette inscription mythique, un petit peu initiale, un peu recomposée, ne doit pas nous empêcher de remarquer que le souffle mythique, l'inspiration qu'on retrouve dans la mythologie en général, a traversé la littérature fantastique, enfin se retrouve dans la littérature fantastique, dans la fantasy et la science-fiction. Dans ces littératures-là, la mythologie a trouvé des lieux où s'incarner à nouveau, soit sous la forme d'une réinterprétation, d'une revitalisation de mythes et de légendes déjà connues, soit sous la forme de nouveaux types de récits, de choses qui, d'une manière ou d'une autre, semblent retrouver le souffle mythique original. Le nom de mythe, le nom de légende, dans les deux cas, se renvoie à des histoires. Et on pourrait simplement se contenter finalement de voir dans la science-fiction, dans la littérature, une source d'histoire. Mais dans mythe, dans légende, il y a un peu plus que la simple histoire. Ce sont des histoires qui sont souvent très symboliques, qui condensent énormément d'éléments qui parlent à plusieurs niveaux, à l'imagination, à la raison, et qui motivent, qui stimulent plus que simplement l'envie de connaître une histoire, la fin d'une histoire, qui reste avec nous au fur et à mesure, au fur et à mesure de notre vie. Les mythes sont souvent des composants de notre vie intellectuelle, de notre vie imaginative, au-delà d'une simple lecture. Et on peut s'interroger pour savoir si la science-fiction et la fantasy sont des lieux où réellement peuvent se créer ce type d'histoire, des histoires qui signifient plus que ce qu'elles racontent au départ. De plus, en même temps que les mythes racontent des histoires, il y a toujours une dimension supplémentaire qui est une dimension d'explication. Et là, on retrouve cet élément très important de la fantasy, de la science-fiction, une des choses qui fascine les lecteurs, c'est-à-dire le fait que derrière chaque histoire, il y a un monde, il y a quelque chose de plus, il y a une explication, quelque chose qui va nous permettre de regarder notre vie courante, notre monde courant, avec un autre regard. Donc, les trois grandes questions que j'envisage de discuter avec nos invités, concernant la mythologie, c'est en premier lieu de savoir si la science-fiction et la fantasy, enfin comment la science-fiction et la fantasy peuvent donner une sorte de seconde vie à des mythes ou des légendes déjà repérées. Un autre aspect important, c'est dans quelle mesure la science-fiction et la fantasy sont capables, et qu'est-ce que ça produit, sont capables de forger de nouveaux mythes. Et enfin, mais ce n'est pas exhaustif, je pense qu'on pourra éventuellement, enfin on touchera forcément des questions qui ont un rapport avec la question justement de l'enchantement du monde et de l'explication du monde, ce qui va un petit peu, ce qui va ensemble dans la question du mythe. On explique tout en rendant magique, tout en rendant merveilleux le monde qui nous entoure. Alors, pour réfléchir au rapport entre mythes et science-fiction, nos quatre invités, plus un traducteur pour Ravir Negrete, sont donc quatre auteurs que vous connaissez bien, mais dont je vais souligner brièvement les rapports aux mythes. Neil Gaiman est un écrivain de fantasy et de science-fiction, dont je dirais le rapport principal au mythe est qu'il rend le mythe très humain, très accessible, et les récits qu'il nous fait sont des récits qui nous montrent des créatures mythiques ou légendaires que nous pourrions croiser. Et il leur conserve leur dimension ésotérique tout en les rendant d'une manière ou d'une autre palpables. Pierre Bordage a lui l'esprit des œuvres de Pierre Bordage, c'est plutôt l'épopée. Il y a quelque chose d'épique dans la plupart des œuvres de Pierre Bordage, que ce soit Les Guerriers du Silence ou La Fraternité du Panca, dans lesquelles ces personnages découvrent des principes qui gouvernent l'univers et luttent pour des enjeux qui sont en général des enjeux extrêmement importants. Jeanne A. de Batz, elle, nous présente souvent, et c'est un thème mythique classique, la notion de la chimère, la notion du mélange entre l'humain et l'être, l'animal ou le monstrueux. Qu'on pense à ces créatures, à ces sortes de super-héros fusionnels dans Plaguers, des androgynes à plusieurs bras dotés de pouvoirs divins. Et enfin, Javier Negrete joue beaucoup pour lui de la référence antique. Le mot de mythe a clairement ici un rapport avec la question du mythe antique. Et il puise son inspiration dans l'inspiration grecque. Il a même réécrit la lutte des dieux contre les titans dans Les Seigneurs de l'Olympe. On peut dire que Javier Negrete fait revivre les références classiques. Alors, je me tourne vers nos invités et j'aimerais poser une question très, très large pour commencer, mais vous pouvez bien sûr la prendre dans le sens que vous désirez. Et j'aimerais savoir, en fait, quel mythe, quel type de mythe ou de légende vous ont le plus inspiré, personnellement et en tant qu'auteur? Et qu'est-ce qui a nourri votre travail? Alors, peut-être Neil Gaiman pour commencer.
It is strange because I encountered science fiction and myth in the same way and at the same time, and made very little differentiation between them. So when I was 6 years old, my three favorite books were Roger Lancelin Green's Tales of the Norsemen, which was the Norse gods, Roger Lancelin Green's Tales of Ancient Egypt, and a book called The Dalek World, which was a Doctor Who spin-off, which was filled with Dalek legendary. So I learned from one, I would learn about Thor dressing up as a woman and hiding in a glove. And from another, I would learn about Set chopping Osiris into pieces and how his wife had to go around to find all the pieces and bring them back together. And from the last, I would learn that Daleks could not see the color red. And these were all going in the same way. The idea that you had the Doctor Who stuff, you had, growing a little bit older, you had Star Trek, which I found when I was very young as the Star Trek books by James Blish. And then, for me, it all coincided when I was about 10 years old and I found Roger Zelazny and I bought Lord of Light. And I knew nothing at all about the Hindu gods or about Buddhism, but I read Lord of Light and then bought every book I could find. I didn't buy them, I was a kid. I took them out of the school library on Buddhism. I read Creatures of Light and Darkness and loved that because I knew the myths that he was talking about. And so there was a very real level for me that seemed like a way to, it opened a door for me. It said, these things are the same. You just have to look at them right. And a myth becomes science fiction, and science fiction becomes myth.
Peut-être Pierre Bordage, maintenant.
C'est le rapport avec les mythes et tout ça. Enfin,
disons, l'influence. Enfin, est-ce qu'il y a des mythes qui vous auraient influencé?
Oui.
Et sinon, d'où vient ce souffle épique?
Alors, les mythes qui m'ont influencé sont évidemment les mythes grecs en premier, la mythologie grecque, puisque j'avais un oncle qui m'offrait à chaque anniversaire ou à chaque Noël, je ne me souviens plus, les mythologies, les contes et mythologies du monde entier. Et j'ai commencé par les mythologies grecques. Et entre autres, le récit qui m'a bercé et qui a emporté toute mon enfance, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Après, j'ai découvert aussi tous les contes et légendes des pays différents, comme l'Afrique, l'Inde aussi, qui m'a beaucoup intéressé. Et qu'est-ce que je cherchais dans les mythes ? Et quel rapport avec les mythes, entre les mythes et la science-fiction ? Ça m'a paru évident, parce que Nel est un homme très précoce, et pas moi. J'ai découvert donc les mythologies, commencé par les mythologies vers l'âge de 10-11 ans. Il y a aussi une mythologie qui est très importante pour moi, c'est la Bible, que j'ai étudiée parce que j'ai fait 4 ans de séminaire et que j'ai beaucoup lu la Bible, que je considère comme une mythologie pure, hein, à proprement parler. Et j'ai découvert la science-fiction très tard, du coup, à l'âge de 18 ans, première année d'université à Nantes, par le biais d'un cours de littérature comparée consacré à la science-fiction de l'âge d'or américain. Et donc, quand j'ai lu mon premier livre de science-fiction, qui s'appelle Chronique martienne de Ray Bradbury, j'ai éprouvé exactement le même vertige que je ressentais quand je disais un mythe. C'est-à-dire que le mythe avait ce pouvoir de me transporter immédiatement, me décoller de mon réel, de me projeter vers un ailleurs, et donc de faire fonctionner mon imaginaire. Et quand j'ai lu mon premier livre de science-fiction, Chronique martienne, j'ai éprouvé exactement la même sensation. Et donc pour moi, c'était devenu d'un seul coup évident que la science-fiction était la littérature mythologique moderne. Et après, je me suis demandé pourquoi cet attrait-là. Je pense que c'est lié aussi à l'écriture. L'écriture est une sorte d'exploration de l'inconscient, et j'ai l'impression que les mythes sont des boutons, des manettes qui appuient énormément sur l'inconscient sans forcément qu'il y ait besoin de l'intellectualiser. D'ailleurs, je ne cherche plus à intellectualiser les mythes, mais juste à me laisser porter par les mythes, de la même façon que j'écris en ne cherchant plus à intellectualiser, mais en me laissant porter par l'écriture. Voilà, ça c'est le rapport premier que j'ai entre les mythes et la science-fiction.
Merci. Donc là, on voit surgir toutes sortes de mythologies déjà. La mythologie nordique, la mythologie de Dr. Wu, la mythologie antique, la mythologie de la Bible. Je ne sais pas si nos deux professeurs de lettres classiques, Jana de Batz et Javier de Grete, ajouteront une autre mythologie, mais...
Ah non, moi je suis tombée toute petite dans le grand bouquin de mythologie générale de Chiquier et j'ai grandi dedans. C'était un bouquin énorme, je pouvais me coucher dessus, c'était merveilleux. Et je suis passée à la science-fiction un peu comme Pierre, de façon totalement naturelle. Ça m'a paru un cheminement qui allait avec, en ce sens que le mythe est une leçon. Et que la science-fiction aussi, elle explique des choses qui n'existent pas ou qui sont à venir. Donc, ou avec des matériaux qu'on n'a pas à ce moment-là. Donc, pour moi, ça a été totalement naturel de passer de l'un à l'autre, de la mythologie nordique et grecque aussi, à Robert Heinlein, directement. Il a fallu Javier pour me réconcilier avec la mythologie grecque, en fait, en tant qu'expression science-fictive du mythe. Mais ça a été une grande claque. Le regard des furies, par exemple, a été une de mes illuminations de lectrice. Et d'ailleurs, je te passe la parole.
Primero, gracias por tus amables palabras.
Merci pour cette amabilité, donc.
Me siento bastante identificado con lo que habéis dicho porque
je rejoins assez ce que vous avez déjà dit.
También empecé a leer mitología desde que era muy niño.
J'ai également commencé à lire de la mythologie depuis mon plus jeune âge.
En casa de mis padres había una enciclopedia de mitos y leyendas clásicas.
Donc chez mes parents, il y avait un livre de mythes et légendes de l'Antiquité.
Me apasionó la historia de Ulises, la de Hércules, la de Ícaro.
Donc il s'est passionné pour l'histoire d'Ulysse, d'Icare, etc.
Pero aunque soy de griego ya desde niño tomé contacto con otras mitologías.
Mais bien qu'il se soit intéressé depuis son plus jeune âge à l'antiquité grecque, il a également porté son regard sur d'autres types de mythologies.
Recuerdo con mucho cariño un libro escrito por un autor francés.
Je me souviens donc d'un livre que j'avais lu avec beaucoup d'intérêt d'un auteur français.
Pierre Grimal, autor de esa gran enciclopedia de mitología.
De Pierre
Grimal.
Pierre Grimal, donc auteur de cette grande anthologie.
Pero en este caso era un libro más como más infantil. Era un libro más infantil.
Il s'agissait d'un livre donc plus infantile, plus era s'adressait plutôt à des enfants.
Cuentos y leyendas de Babilonia y de Persia.
Il appréciait particulièrement les contes de Babylone et de Perse.
También otra manera de llegar al mito quizá menos ortodoxa.
Peut-être une autre façon également d'arriver à un mythe un peu moins orthodoxe.
Fue a través de los cómics.
Ça a été à travers la bande dessinée.
Sobre todo los del dios Thor de la Marvel.
Surtout le dieu Thor de Marvel.
Lo que me llevó también a otra influencia que hay mezclada en mi obra.
Ce qui a également influencé mon œuvre d'un autre côté.
Que es la mitología nórdica.
Qui est la mythologie nordique.
Lo he mezclado con bastante poco pudor en Señores del Olimpo.
D'ailleurs, j'ai mélangé ces deux types de mythologie sans grande pudeur, me dit-il, dans Seigneur de l'Olympe.
Hay elementos nórdicos mezclados en esa novela.
Où il y a des éléments de la mythologie nordique donc insérés dans ce roman.
¿Qué es lo que me atrae o me atraía y me sigue atrayendo de la mitología y qué tiene que ver con la fantasía?
Donc ce qui m'a... Excuse-moi.
¿Qué es lo que me atrae tanto de la mitología?
Ce qui m'intéresse vraiment dans la mythologie.
Yo creo que es la palabra clave es fuerza.
Le mot clé c'est le mot force.
Los personajes mitológicos normalmente son sobrehumanos.
Les personnages mythologiques normalement sont surhumains.
Tienen más poder evidentemente como el gran dios Zeus.
Ils ont évidemment plus de poder comme plus de pouvoir comme le grand dieu Zeus.
Pero sobrehumanos no quiere decir inhumanos.
Mais surhumain ne veut pas dire inhumain.
Lo que quiero decir es que los dioses y los héroes nos representan.
Ce que je veux dire c'est que les dieux et les héros nous représentent en fait.
Es como una versión depurada de nosotros mismos.
C'est comme une version épurée de nous-mêmes.
Como si nuestras pasiones, las peores y las mejores,
comme si nos passions les meilleures et les moins avouables,
se destilaran en una especie de quinta esencia. Esencia.
C'est comme l'essence.
On va parler de quintessence. Quintessence, voilà.
Alors, en fait, c'est une force qui va. Javier.
Gracias.
Bueno, el caso es que la mitología nos transmite. Y nos permite.
Toujours est-il que la mythologie nous transmet et nous permet.
Y nos permite transmitir las emociones más puras.
De transmettre les émotions les plus pures.
Con una tremenda intensidad.
Avec une terrible intensité.
La lucha de poder.
La lutte de pouvoir.
El enfrentamiento entre generaciones.
L'affrontement entre différentes générations.
Sea asesinatos entre padres e hijos, incestos.
Assassinats entre parents et enfants, incestes, etc.
Representan facetas que con el tiempo hemos ido dominando.
Representan des facettes qu'avec le temps nous avons dominé, maîtrisé, domestiqué, dompté.
Y gracias a los mitos podemos asomarnos. Podemos asomarnos a nuestro ser más primordial.
Et grâce aux mythes, on peut un peu entrevoir notre être le plus primordial. De rien.
Alors ça nous emmène dans des hauteurs absolument apparemment inaccessibles, enfin ces présentations épurées. Mais la question justement qui se pose là et qui me semble évoquer automatiquement, c'est comment faire en sorte que ces êtres qui sont surhumains, sans être inhumains, comme l'a dit Javier Negrete, soient des êtres intéressants. Que des êtres qui puissent passionner tout en étant au-dessus de ce qu'on peut envisager. Donc, en quelque sorte, comment donner une psychologie acceptable, qui ne soit pas trop humaine, mais qui soit compréhensible, à des êtres divins ou surhumains. Donc, comment rendre humains le...
First of all, I don't think you can generalize with just saying myth and superhumans, because there are myths that we have where the gods and the heroes are completely two-dimensional. And then there are myths that we have where you have something where they are us, where they really are people. The Norse gods tend to be very, very human. They get drunk. There's a wonderful myth called Loki's Flighting, where Loki comes out and just gets drunk and he insults everybody at the table. And it's like, well, I've slept with you, and you know, and they're absolutely human. They are two-dimensional, three-dimensional. So putting those characters into a fictional structure is very, very easy, because you simply have to go, well, how would they work in whatever context you're trying to put them? The Greeks, on the other hand, they're very flat. They have they do one thing. They are one thing, and they do it over and over. They, you know, Zeus can predictably be found trying to have sex with some lady in the form of a shower of gold, a bull, a swan, or something equally as unlikely, but you never get any sense that he is a real person. So if you are taking your Greek characters, you are going to have to give them... you're just going to have to flesh them out. You have to make them human. Which is, I suppose, not hard, but the joy of writing God sometimes is, as Javier was saying, is they are not us. They are bigger than us. They are us written. You take a certain aspect of yourself, of being human, of the way you see the world, and then you write it big. As with Sandman, where I decided to try and create my own mythology that would incorporate all the other mythologies and see how that would work. But it's exactly the same process that someone like Zelazny would have, or you know, even Harlan Ellison or someone on a smaller level would take characters from myth and see what happened if you got them walking around in a story.
Thank you. Pierre Bordage, je ne sais pas si... dans votre œuvre, c'est moins des créatures plus qu'humaines. Il y a de l'inhumain. Il y a des créatures absolument inhumaines. Mais on est toujours quand même dans quelque chose qui est effectivement très humain. Et peut-être de ce point de vue-là, qu'on est plus proche effectivement d'une mythologie qui est une mythologie biblique, où l'humain reste l'élément agissant, où le libre arbitre et la volonté humaine va être importante. Mais de ce point de vue-là, comment faire en sorte de faire ressentir, comment faites-vous ressentir l'écrasement qu'il peut y avoir, c'est-à-dire le fait que des individus qui sont finalement des humains comme vous et moi, sont confrontés à des enjeux qui normalement devraient rendre fou de désespoir la plupart des êtres humains. Comment peuvent-ils accéder à ce statut héroïque?
Oui, c'est tout, toute la définition du héros, quasiment, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de s'élever au-dessus de sa condition et d'atteindre une dimension universelle. Parce que ça marche le micro, oui. Parce que j'ai l'impression, enfin, pour moi, la mythologie, c'est un langage principalement, et j'essaie de vraiment la ressentir comme un langage, c'est-à-dire, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'éloigner toute compréhension intellectuelle du phénomène, parce que je pense que là, je passerai à côté. Pour moi, c'est une grande plongée dans l'inconscient, la mythologie. En tant qu'auteur, mon travail consiste aussi à plonger dans ce grand fleuve humain, le plus profondément possible, c'est-à-dire essayer de pousser ou d'explorer l'humain dans toutes ses dimensions, et jusqu'à la dimension mythologique, c'est-à-dire la dimension universelle, parce que j'ai l'impression que les mythes sont... d'abord et avant tout des histoires universelles à portée universelle dont chacun à la limite peut se nourrir, mais de façon totalement, enfin encore une fois, inconsciente, parce que ça, pour moi, c'est impossible. Enfin, ces histoires-là, je les entends comme des poèmes, comme des mots, comme des histoires, et non pas comme des explications du monde. Donc voilà. Alors, moi, mes personnages, ils ont un chemin initiatique. Ils partent de la condition d'humain, et à cause des enjeux qui leur sont proposés, ils vont devoir sortir de la condition humaine, ou plus exactement, plonger encore plus profondément dans le fleuve humain pour atteindre cette dimension universelle. C'est comme ça que je vois la mythologie, comme ça que je me sers de la mythologie. On voit ça beaucoup effectivement dans la Bible, hein, où les personnages atteignent des dimensions mythiques, où un personnage comme Moïse est tout à fait révélateur à ce sujet. Donc ils ne sont pas forcément Dieu d'emblée, mais ils accèdent à la condition divine, parce que je pense que... Alors là, on va s'exposer, je ne sais pas, des critiques. Mais je pense qu'il y a une dimension divine ou spirituelle dans l'homme, et c'est celle que je cherche dans l'écriture. La dimension purement matérialiste ne m'intéresse pas beaucoup, parce que finalement, elle est extrêmement limitée, et elle ne permet pas une vraie évolution. Donc ce qui m'intéresse dans la mythologie de Mans, c'est qu'on a une autre forme de langage, beaucoup plus inconsciente, et beaucoup plus profonde, et c'est, moi je cherche à la limite, pas d'expliquer le monde, mais d'explorer le monde par ce vaisseau-là de la mythologie, parce qu'il me semble beaucoup plus riche, finalement, que le vaisseau matérialiste scientifique. Et je sais que je vais me faire allumer, parce que je fais de la science-fiction, normalement. Mais bon.
Ça, c'est une pierre dans mon jardin.
Oui, mais la science-fiction, justement, peut-être touche au mythe, dans ce qu'elle a de plus spirituel et de ce qu'elle a de plus élevé. C'est-à-dire qu'on touche des questions qui sont des questions essentielles.
Tout à fait, mais c'est une des fonctions du genre. Moi, j'assigne trois fonctions. Le merveilleux, c'est-à-dire le décollage dans l'espace-temps. Le merveilleux voyage tel que défini par Jules Verne et le nouveau voyage extraordinaire. La réflexion sur le présent, c'est-à-dire la réflexion sociologique, sur le poids des technologies sur l'évolution du monde. Ça, c'est le deuxième volet de la science-fiction. Le troisième volet, c'est l'interrogation métaphysique ou l'interrogation philosophique fondamentale qui rejoint alors là complètement les interrogations fondamentales posées depuis la nuit des temps par les êtres humains à partir du moment où ils se sentent, où ils ont sensation ou cette compréhension de l'espace-temps. C'est-à-dire, nous sommes prisonniers de l'espace-temps. Comment se sortir de l'espace-temps? Et je pense que là, je ne saurais pas l'expliquer. Hein. Je veux dire, j'ai pas d'explication rationnelle sur le fonctionnement mythologique. Mais là, il y a, à mon avis, des portes intéressantes à explorer. Et je pense que l'écriture permet d'explorer ça. Et le genre science-fiction, puisqu'évidemment, il prend en compte toutes les innovations technologiques. Donc, c'est une réécriture en fonction du déplacement du centre du monde. Hein. Je veux dire, on voit très bien que dans l'Iliade et l'Odyssée, on est dans la Méditerranée. C'est l'espèce d'univers un petit peu inconnu qu'on explore. Et là, on est une petite planète perdue dans la Voie lactée. Donc, ça s'est déplacé dans l'espace. Mais le principe est le même pour moi, quoi. On reprend. Pour moi, il n'y a rien écrit de supérieur. Je parle beaucoup, pardon. Il n'y a rien eu d'écrit de supérieur à l'Iliade et l'Odyssée. Pour moi, c'est le modèle absolu et je ne suis qu'un modeste suiveur dans ce sillon tracé par Homère que je trouve absolument extraordinaire.
Alors, nous verrons tout à l'heure comment on peut se mettre dans le sillage d'Homère, mais je rebondis sur les termes que vous employez pour reformuler un petit peu ma question, pour avancer un petit peu sur le même sujet, mais en essayant de le
excuse-moi, Simon. Moi, c'est là que je trouve que Pierre et moi, on réalise l'androgyne parfait. C'est-à-dire que moi, dans le mythe et dans la racine mythique, je vais chercher l'explication du monde. Et je vais chercher en fait la science. Il est dans le ressenti, j'ai l'impression. Et j'aurais tendance à raconter l'histoire du monde à travers le mythe. En fait, et trouver une explication qui soit à la fois poétique et scientifique. De toute façon, c'est presque le même mot, quelque part dans ma tête. Mais Pierre apporte une réponse et moi une autre qui est complètement rationnelle.
Heureusement que la mienne est bonne et pas la tienne.
Mais évidemment. et quelque part, lui, ça serait les pythagoriciens et moi l'école de Milet, n'est-ce pas, cher collègue? C'est à toi. Très bien.
Aunque sea de humanidades, professeur de griego.
Bien que je sois professeur de grec et de lettres classiques.
Soy un poco traidor a los míos.
J'ai un peu trahi les miens.
Porque tengo una mentalidad muy racionalista y científica.
Puisque j'ai une mentalité très rationnelle en fait et scientifique.
De modo que más que una explicación del mundo,
si bien que plutôt qu'une explication du monde,
lo que me llama la más de los mitos,
ce qui m'intéresse le plus dans les mythes,
son sus protagonistas.
Ce sont ses protagonistes.
Como escritor, para mí siempre el centro de mis novelas han sido los personajes.
En tant qu'écrivain, le centre de mes romans, ce sont toujours les personnages.
Y el personaje mítico me ofrece un desafío.
Et le personnage mythique m'offre un défi.
Que consiste en las dos posibles maneras de mirarlo.
Qui consiste dans les deux façons possibles de le considérer.
La normale es aquí desde abajo, como mirando a un dios.
La normale ici d'en bas.
Mirando a un dios desde aquí abajo.
Comme si l'on regardait un dieu de ce bas monde, disons, hein, les yeux levés vers le ciel.
Así, por ejemplo, en la primera novela de mi ciclo de Tramoria.
Par exemple, dans mon premier roman du cycle de chroniques de Tramoret.
Cuando se habla del dios loco Tubiloc.
Quand il est question du dieu fou Tubiloc.
Siempre se habla de una presencia hostil.
Il s'agit toujours d'une présence hostile.
Que se cierne sobre las cabezas de los humanos.
Qui plane au-dessus des têtes des humains.
Y que se teme, pero no se comprende.
Que l'on craint, mais qu'on ne comprend pas.
Pero como escritor, cuando llegó el momento.
Mais en tant qu'écrivain.
Cuando llegó el momento de presentar a este dios.
Quand le moment est venu de présenter donc ce dieu,
yo no tenía más remedio que intentar comprenderlo.
Je me suis senti obligé d'essayer de le comprendre en fait.
Aunque soy un gran seguidor de Tolkien,
bien que je sois un grand fan de Tolkien,
no me interesaba crear otro espíritu del mal como Sauron.
Je voulais pas créer un autre esprit du mal.
Una presencia que nunca se llega a ver ni a comprender.
Une présence que l'on ne voit jamais, que l'on comprend pas vraiment, pas du tout.
Yo quería intentar meterme en la mente del dios loco.
Je voulais m'introduire dans l'esprit du dieu fou.
Era un desafío doble porque era dios y porque estaba loco.
C'était un double défi puisqu'il s'agissait d'un dieu et d'autre part il était fou.
Aunque en el fondo al trabajar sobre ello,
mais dans le fond en travaillant sur cette question,
me di cuenta de que todo personaje,
je me suis rendu compte que le personnage tout entier,
con tanto poder y unas metas tan altas,
avec tous ses pouvoirs et ses desseins si élevés,
o se vuelve loco,
ou bien il perd la tête,
o nosotros, los normales,
ou bien nous autres, les normaux entre guillemets,
lo identificaríamos como loco,
nous le traiterions, nous le tiendrions pour un fou.
El desafío era interesante.
Le défi était intéressant.
Espero haber salido con bien.
J'espère que je l'ai relevé correctement.
Creo que acabé entendiendo la mente de ese ser tan poderoso.
Je crois que j'ai fini par saisir, cerner un peu l'esprit de cet être puissant.
Porque algo que tenemos los escritores.
Car il est une chose que nous avons les écrivains.
Al menos cuando trabajamos,
du moins quand nous travaillons,
es empatía.
C'est de l'empathie.
Ponernos en lugar de nuestros personajes.
Nous mettre dans la peau du personnage.
Y sobre todo ponerlos a actuar.
Et surtout les mettre en action.
Mi teoría es que el personaje es lo que hace.
Ma théorie est que le personnage se définit par ce qu'il fait.
Antes hacía muchos estudios preparativos sobre mis personajes.
Avant, je faisais tout un tas de travail préparatoire pour travailler mes personnages.
Pero con el tiempo, lo que hago es soltarlos.
Mais à présent, je les lâche.
Dejar que actúen como si fuera yo.
Je les laisse agir comme si s'agissait de moi-même.
E intentar entender por qué ese personaje o por qué yo en su cabeza.
Et j'essaye de comprendre pourquoi ce personnage ou moi qui suis dans sa tête
actúa de esa forma.
Agit de cette façon.
Oui, mais tu triches parce que tu prends des personnages historiques.
Pero haces trampas porque eliges a personajes históricos.
Bien, cuando es novela histórica.
Quand il s'agit d'un roman historique, c'est différent.
Pero en fantasía, por ejemplo, con este dios.
mais en fait en fantasy, donc oui. Avec ce dieu.
Avec la Tramorée, oui, c'est vrai.
Lo que descubrí para terminar,
ce que j'ai découvert pour finir,
que esa presencia de la primera novela,
que cette présence qui apparaît déjà dans le premier roman de la saga,
tan amenazadora y sobrenatural,
qui est si menaçante et surnaturelle,
en el final de la saga,
à la fin de la saga,
es tal vez el más humano de los personajes,
est peut-être le personnage le plus humain.
De modo que yo aprendí también según escribía.
Donc il a appris également tout en écrivant.
Aprendí mucho de ese dios loco, de ese villano.
Il a appris beaucoup de choses sur ce dieu fou qui était un méchant.
Merci. Alors, j'aimerais passer peut-être à partir de là, mais pour réfléchir à ce que dans la science-fiction et la fantasy, ce qui peut éventuellement tenir lieu de mythes modernes. Ça a été évoqué déjà, l'idée qu'il y ait une mythologie, que ce soit finalement un peu la même chose, mais il y a quand même au départ quelque chose qui caractérise les êtres mythiques, c'est le fait qu'ils traversent les siècles, c'est le fait qu'ils restent et que ce soit des choses vraiment qu'on peut réutiliser à l'infini. Et qu'est-ce qui, d'après vous, ici, dans la création de science-fiction depuis... disons depuis son début, qu'est-ce qui peut tenir lieu réellement de mythes modernes? Ça peut être toutes sortes de choses évidemment, mais est-ce que par exemple l'image de l'extraterrestre, les icônes particulières de la science-fiction, l'image de l'extraterrestre, l'image du savant fou, le dragon en fantasy, ce genre de choses, est-ce que ces éléments qui ont été concrétisés qui ont eu des manifestations spécifiques en science-fiction, est-ce que ça peut tenir lieu de mythe? Est-ce que ça va survivre? Je sais pas si...
I think the fundamental thing about a myth is it is tends to be the way that we explain the world to ourselves. You begin with a religion, you begin with something sacred, and then you come down from the sacred to the myth, which is the explanation, the way you take the sacred thing, you take the Eleusinian mysteries, and now you have the story of Cupid and Psyche, and then that falls down into the realm of fairy tale and into the realm of story, and suddenly we're telling Beauty and the Beast. And it's the same story 2,000 years away from when it was a myth and 2,500 years away from when it was holy. So I think in some ways we have to look at what the stories are that we tell now that make sense of the world to ourselves. At the end of the 20th century, I felt that the myths really were the friend of a friend stories that people would tell. The stories about... you know, the killer with the hook, who and the terrible things that happened to people that seemed to explain the way the world worked. These days, I think our myths, I think we're growing our new myths, and I think we're growing them on strange, fertile territory, which is straight out of a combination of early William Gibson and middle period 1960s Star Trek. You know, everybody, all of us have our phones, and I don't think we would have had these if it hadn't have been for Star Trek. But I do think that fundamentally right now, science fiction is a way of... It's always a way of showing us the world. Science fiction at its best is always a mirror that says, this is the world, this is a way that the world isn't, this is a way that we can see ourselves at a remove. And I think that is always a function of myth.
Thank you. Donc effectivement, les légendes urbaines sont une des manifestations des histoires, des mythes contemporains. Poursuivons sur la voie effectivement ouverte par Neil Gaiman. Le mythe pour expliquer le monde. dans quelle mesure les textes de science-fiction ou de fantasy nous disent quelque chose du monde qu'on ne verrait pas sans eux. En quelle mesure est-ce qu'ils augmentent, ils ajoutent à notre connaissance du monde. Alors, je ne sais pas qui veut répondre.
Si. Eh bien, il faudrait faire preuve d'une grande immodestie pour croire que nos histoires vont agir sur le monde. Bien que secrètement, chaque auteur espère, dans le fond de lui-même, changer quelque chose dans le lecteur, c'est sa grande arrogance.
Au moins la teneur de son porte-monnaie.
Oui, puis au moins, si on peut déplacer le point de vue du lecteur sur quelque chose, c'est déjà pas mal. Mais en réalité, enfin, à mon avis, moi, c'est comme ça que je vois les choses, j'ai l'impression que nous n'inventons rien. On paraît inventer des choses avec la technologie, avec une définition matérielle, scientifique, objective du monde, mais j'ai l'impression que tous les schémas narratifs sont déjà installés là, depuis la nuit des temps, et que nous faisons que puiser, finalement, dans une sorte de urne à histoire, dans un bocal à histoire, déjà installé, et qui sont rhabillés simplement par des nouvelles avancées technologiques. Tout à l'heure, je disais que le terrain de jeu s'est déplacé, mais ce qui reste entre l'Odyssée et le voyage spatial, c'est le voyage. Le voyage dans l'inconnu, la rencontre avec l'autre, Charybde, Scylla, le monstre, celui qu'on ne comprend pas, l'autre, le cyclope, etc. Et que donc, c'est juste, ce sont juste des modernisations, en quelque sorte, entre guillemets, des vieilles mythologies, mais je pense que l'essentiel du schéma narratif, il est déjà installé depuis la nuit des temps, et que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Homère, quoi, j'ai l'impression de ne rien inventer par rapport à lui, parce que quasiment tous les thèmes sont là, la façon de raconter est là, le schéma initiatique est là, enfin, tout est là. Quoi.
Je crois que Pierre confond le schéma narratif avec le destin du héros.
On va pas faire un cours de français.
Je parle bien du schéma narratif de raconter des histoires.
On est d'accord, on n'était pas dans la définition en français, mais j'ai l'impression que le destin a changé en fait.
Le destin de l'humanité a changé ?
Non, pas le destin de l'humanité, le destin du héros lui-même. Il est singulier maintenant. C'est plus une force qui va, c'est un individu qui va et qui fait avec la réalité qu'il a. C'est le sentiment que j'ai. C'est peut-être pour ça que Rabière, par exemple, crée des héros qui sont... Des héros qui sont profondément humains avec des erreurs, etc. Et c'est à toi que je repasse la parole, Rabière, parce que j'aime bien faire ça.
Non, mais attends, je voudrais réagir à ce que tu as dit, parce que...
Pardon.
Le destin du héros, enfin, tel que le définit Joseph Campbell dans Le héros aux mille visages, le destin du héros, c'est de changer quelque chose en lui, changer. Alors, tu as employé le mot réenchantement tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire qu'il va changer quelque chose en lui, et ayant changé quelque chose en lui, il va diffuser un changement dans son environnement, et c'est ça le rôle du héros. Alors qu'il soit plus individuel ou moins mythologique ou moins épopée que dans le temps, etc., parce qu'il est moins divinisé, d'accord, ça c'est possible, mais le schéma narratif du héros, il est le même, c'est-à-dire avoir un chemin, avancer quelque part, subir des épreuves initiatiques et se changer lui-même pour métamorphoser quelque part son monde. C'est ça l'intérêt. Sinon, si le héros, à quoi bon à mon avis, inviter un lecteur dans une aventure, si c'est pour que le lecteur en sorte exactement comme avant ? C'est donc une métamorphose de laquelle
Excuse-moi, alors, tu fais une identification entre le lecteur et le héros, donc.
Non. Je parle bien du lecteur.
Alors, tu as dit, si le lecteur est emporté par l'histoire, il accompagne forcément une métamorphose. Héros, la transformation fait partie.
Et c'est un peu
en quelle mesure ce
regard est transformé. Assez désespérant si l'auteur écrivait des bouquins sans essayer modestement ou à sa façon, inconsciemment, tout ce qu'on veut, de métamorphoser quelque chose dans le lecteur. Sinon, quel intérêt d'écrire des bouquins ? Quel intérêt de raconter des histoires ?
Je propose d'interroger Javier Negrete sur cette question. Donc, Javier Negrete, est-ce que vous espérez, à travers vos récits, transformer le regard sur le monde du lecteur, d'une manière ou d'une autre ? Lui apporter un peu de cet enchantement du monde, de la mythologie ?
La mirada de las furias.
La verdad es que no... La verdad es que no.
En fait, en vérité, non.
Cuando escribo, en realidad lo que hago es ir cambiando mi mirada.
Quand j'écris, en fait, je modifie mon regard, je transforme mon regard.
Veo a través de los personajes, como he contado antes.
Je vois à travers le regard des personnages, comme je racontais tout à l'heure.
Si lo he hecho bien, si lo he hecho bien, lo de.
Si je l'ai bien fait, donc.
Espero que los lectores también se pongan en esa mirada.
J'espère donc que les lecteurs adoptent également ce point de vue différent.
Y eso les pueda, bueno, vamos a decir, poner una especie de gafas.
Disons que ça va leur mettre comme si on leur remettait des lunettes, en fait.
No cambiar la visión del todo.
Ça ne modifie pas complètement la vision.
Pero sí un pequeño matiz.
Mais certaines nuances uniquement.
En el caso de los mitos que nos ocupan.
Pour ce qui concerne les mythes donc qui nous occupent.
Tienen la ventaja de esa tremenda fuerza emocional.
Ils présentent l'avantage donc de cette terrible force émotionnelle.
Hoy día no creo que nos sirvan como explicación del mundo.
Aujourd'hui, je pense pas qu'ils puissent nous être utiles pour expliquer le monde.
Del mundo externo.
Du monde externe.
Pero sí de nosotros mismos.
Mais par contre, ils nous apportent des réponses sur nous-mêmes.
Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pierre.
Et je suis d'accord par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure.
Lo cual creo que nos ofrece muchas posibilidades.
Je pense qu'il nous offre de nombreuses possibilités.
El héroe literario.
Le héros littéraire.
Pero más aún, el héroe mítico.
Et plus encore, le héros mythique.
En su peripecia.
Dans ses différentes péripéties. Dans les
esa peripecia que narramos en nuestras historias.
Différentes aventures que nous racontons dans nos romans.
Puede chocar contra el mundo y cambiarlo.
Peut être en opposition. Comment dire?
Cambiar el.
Peut être en guerre contre le monde, disons, et tu as dit ensuite.
O puede ser el héroe el que cambie.
Ou ça peut être également le héros lui-même qui change.
Pero hay una posibilidad que ocurre a veces en las historias míticas poderosas.
Mais il y a une possibilité qui arrive parfois dans les histoires mythologiques puissantes.
Que es cuando un héroe que no quiere cambiar,
c'est quand un héros qui ne veut pas changer,
choca contra un mundo que es imposible de cambiar.
Se heurte à un monde qu'il est impossible de changer.
Como se dice, una fuerza imparable.
On peut parler d'une force inexorable.
Choca contra un obstáculo.
Il se heurte à un obstacle.
Que no hay manera inamovible. Que no se puede mover.
Un obstacle inamovible.
El destello de energía, la explosión de energía que se produce.
L'explosion d'énergie que ça engendre.
Creo que es lo que da su fuerza a muchas de las tragedias.
C'est ce qui donne sa force à la plupart des tragédies.
Y es un terreno muy interesante para nosotros para explorarlo también.
Et c'est un terrain à explorer qui est très intéressant pour nous.
Ce qui revient à on peut difficilement éviter la question quand on parle de mythe, c'est est-ce que le changement intérieur a une action sur le changement du monde ? C'est, je pense, la définition même du mythe, c'est-à-dire ces espèces de langage inconscient dont je parlais. Est-ce que si on change ce langage intérieur de soi-même, on ne change pas le monde ? Est-ce que le changement du monde ne passe pas par le changement subjectif, finalement ? Est-ce que le changement objectif est suffisant pour changer le monde ? Ça, c'est une question qui me passionne beaucoup et à laquelle je réponds non, on ne peut pas changer le monde objectivement.
D'accord. Je crois qu'on va essayer de profiter des 5 dernières minutes pour demander peut-être au public s'il y a des questions. Donc il y a une question ici.
Bonjour. J'avais une petite question. On a beaucoup parlé des mythes, la mythologie antique, mais on n'a pas parlé des mythes littéraires. Est-ce que dans vos œuvres personnelles, est-ce que vous avez pensé à réécrire certains mythes littéraires ? Je pensais notamment à Faust, à Frankenstein, ou même peut-être plus précisément, je pensais à la tempête de Shakespeare qu'on retrouve dans le film La planète interdite. Est-ce qu'il y a cette volonté aussi de non seulement de réécrire un mythe antique, mais aussi un mythe littéraire ?
I've rewritten, I think, all of those over the years. Less Frankenstein, but I've definitely done many variations on Faust and The Tempest, actually, and along with Midsummer Night's Dream, wound up thematically wending its way through Sandman. But I tend not to regard those as myth, because I don't think that you can... I think you run the risk of, if you say, well, there are literary myths, of eventually being able to point to anything and saying, this is a myth. It's not a myth. The Tempest isn't a myth. There's no way that people have taken The Tempest as a way to see the world. The Tempest is a story, a beautiful, brilliantly told story. Faust is much more interesting because it's like a pattern. The idea, but I think Faust, mythically, is goes earlier. Frankenstein goes earlier. They both go back to Prometheus. They both go back to Icarus. They both go back to the theme that you get over and over. And of course, in the Bible, the theme of temptation, the theme that mankind, hubris, is always clobbered by nemesis, as Brian Aldiss said. And that was his definition of science fiction. Those are stories in which man's hubris, feeling that he can be like a god, is always clobbered and destroyed by nemesis in the shape of the gods. And that's science fiction.
Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter ou sinon une autre question? Oui.
Ma question est la suivante. Est-ce que la mythologie, les mythes, mais aussi la science-fiction et les histoires de fantasy tendent à perdre leur pouvoir de fascination avec l'âge, en fait? Et je pense à la fois à l'âge d'une personne, puisque moi, j'ai l'impression que tous les auteurs ont été fascinés par la mythologie quand ils étaient très jeunes, mais aussi avec l'âge, je veux dire, de la civilisation en général.
Alors, il y a la fameuse citation qui nous rappelle que l'âge d'or de la science-fiction, c'est quand on a quoi, 12 ans, c'est ça? Donc, effectivement, il y a un rapport à la merveille, à l'émerveillement qu'on associe plus facilement à l'enfance. Après, est-ce que réellement on peut dire que notre civilisation a moins envie de mythes, par exemple? Est-ce que de nos jours, les gens... Je crois que les personnes qui sont présentes ici manifestent, au contraire, que l'âge d'une civilisation, si une telle chose existe, n'empêche absolument pas le goût de la merveille, au contraire. Enfin,
Personnellement,
je me suis aperçu
que esa fascinación no desaparece con el tiempo.
Que cette fascination en fait ne disparaît pas avec ne s'estompe pas avec le temps.
También es cierto que como profesor trabajo con personas jóvenes.
Il est vrai également qu'en tant que professeur, je travaille avec des gens qui sont avec des jeunes donc.
Pero ya no son niños.
Mais qui sont plus non plus des enfants.
Y curiosamente cuando pasa el tiempo.
Et curieusement plus le temps passe.
Y ya llevo 24 años dando clase.
Et cela fait 24 ans que j'enseigne.
O sea que algunos de mis alumnos peinan canas.
Donc certains de mes élèves ont donc maintenant des cheveux blancs.
Cuando me los vuelvo a encontrar mucho tiempo después.
Quand je les retrouve quelques années plus tard ou de longues années plus tard.
Lo que más recuerdan son las clases de mitología.
Ils se souviennent surtout des cours de mythologie en fait.
Por supuesto mucho más que las declinaciones griegas.
Beaucoup plus que des déclinaisons grecques.
Y de nuevo creo que la clave está.
Donc, à nouveau, je pense que la clé.
En ese poder simbólico y esencial del mito.
Donc de ce pouvoir symbolique du mythe.
Esa palabra que nos dio problema, la quinta esencia.
La quintessence.
Es la quinta esencia de la narración. Es la narración.
Représente donc la quintessence de la narration.
Más primitiva.
La plus primitive.
Entonces, en su simplicidad.
Donc dans sa simplicité.
En esa forma de estar tallada con rasgos muy contrastados.
Dans cette façon d'être taillée avec des traits très contrastés.
Es lógico que llame la atención cuando somos niños.
C'est normal que cela nous intéresse, nous fascine quand nous sommes petits.
Que no es una época precisamente de matices.
Parce que justement, c'est une époque où on n'est pas justement dans une époque de nuances. On ne fait pas dans la nuance.
Pero esa fascinación por la fuerza y la simplicidad,
mais cette fascination pour la force et la simplicité
se mantiene con los años.
Perdure au fil du temps.
Lo bueno que tiene ese material mitológico,
ce qui est bien avec ce matériau mythologique,
es que sirve para que escritores ya maduros,
c'est qu'il sert à des auteurs déjà mûrs ou d'un certain âge,
exploren esos caminos,
pour explorer ces chemins,
los compliquen, añadan esos matices,
pour les compliquer, les rendre plus complexes,
queremos historias más complejas,
en ajoutant justement des nuances, en créant des histoires plus complexes,
pero creo que la fuerza que tienen,
mais je pense que la force qu'ils ont,
es como si fuera un brillo interior,
c'est comme une sorte de feu, un déclin intérieur,
una luz metida dentro de una bola de cristal,
une lumière dans une boule de cristal,
y ese sol interior,
et ce soleil intérieur
es el mismo que nos fascinó,
est le même justement que celui qui nous a
fascinés, que nos mirando,
le même que nous regardons toujours
cuando éramos niños,
et que nous regardions quand nous étions enfants.
Evidentemente hay gente,
évidemment, il y a des gens
que, a la que dejan de gustarle los mitos,
qui cessent de s'intéresser aux mythes.
Tengo una minoría de alumnos, por ejemplo,
par exemple, j'ai une minorité d'élèves
que prefieren que les cuente cualquier cosa en clase,
qui préfèrent écouter n'importe quel type d'histoire,
menos los mitos,
pourvu que ce ne soit pas des mythes,
porque eso no ha podido ocurrir,
parce que pour eux ça n'a pas pu exister, ça n'a
porque
pas
son muy fantásticos,
parce que c'est trop fantastique.
Lo único que pienso cuando oigo eso es,
la seule chose qui me vient à l'esprit quand j'entends ça,
pobrecitos, ¿qué le voy a hacer?
C'est pauvres petits, qu'est-ce que je peux faire pour eux.
Bien, merci. On va devoir arrêter. Merci à Christophe Josse pour la traduction et merci à nos auteurs pour toute leur sagacité.